Dieu a voulu la réaliser. Comprenez qu'il s'agit d'étudier la source de toute la nouvelle alliance. Donc il faut tout le temps, en entrant dans ce mystère, essayer de mieux comprendre ce qu'est la nouvelle alliance. C'est la tête, Jésus. Et chaque fois que nous précisons un aspect particulier sur ce qu'est cette alliance, c'est pour tout le corps mystique, l'Église du Verbe incarné. Et donc, c'est pour chacun d'entre nous. Il faut essayer de saisir ce que ça signifie. Donc, l'union de l'article 7, hein, l'union de la nature divine et de la nature humaine est-elle quelque chose de créé ? Rien de créé ne peut se trouver en Dieu, car tout ce qui est en Dieu est Dieu. Mais cette union est en Dieu, puisque Dieu lui-même est uni à la nature humaine. Il ne semble donc pas qu'elle soit quelque chose de créé. Mais toujours le double regard, hein, faudra bien comprendre. Alors, cet contrat, cependant, ce qui a un commencement dans le temps est quelque chose de créé. Or, cette union n'est pas éternelle, mais elle a commencé dans le temps. Elle est donc bien quelque chose de créé. Cette double vision constante de l'homme, cette vision de Daniel, hein, le fils de l'homme. Et le fils de l'homme tel qu'il a été réalisé en Marie. Enfin, perpétuellement, il y a eu ces deux aspects. Il y a quelque chose d'éternel et quelque chose qui est dans le temps. Alors il faut bien comprendre, quand on pose cette question, l'union de la nature divine et de la nature divine est-elle quelque chose de créé ? Alors, saint Thomas répond, vous voyez, le sept contrat par rapport à la première objection, on montre bien les deux aspects. En Dieu, rien de créé. Or, le propre de mystère de l'union hypostatique, c'est la nature humaine, est en Dieu. Tout est divinisé dans le Christ. Il est Dieu. Donc s'il est Dieu, c'est quelque chose d'éternel. Et cependant, il est dans le temps. Et ça, c'est... L'union dont nous parlons consiste dans une certaine relation entre la nature divine et la nature humaine. Résultat de leur synthèse en l'unité de la personne du Fils de Dieu. Alors, unio de qua loquimur est relatio quedam, que consideratur inter divinam naturam et humanam, secundum quod conveniunt in una persona filii Dei. Faut éviter de dire synthèse. Bon, père Eris, là. Je crois qu'il ne faut pas dire synthèse, hein, vous voyez bien. Le terme est beaucoup plus fort quand saint Thomas dit donc, le mot, une certaine relation. Quedam relation. Alors ça, c'est toujours intéressant parce que toujours savoir comment le théologien utilise le point de vue de la relation. Dans le traité de la très sainte Trinité, et puis nous le retrouvons ici dans le traité de l'incarnation et dans le traité de la création. Toujours, la relation joue ce rôle capital. Alors, il faut voir chaque fois, hein, c'est différent. Donc, l'union dont nous parlons consiste dans une certaine relation entre la nature divine et la nature humaine, selon qu'ils conviennent, conveniunt, dans une personne, celle du Fils de Dieu. Or, comme il a été dit dans la première partie de la somme, toute relation entre Dieu et la créature est réelle dans la créature parce qu'elle provient d'un changement opéré en celle-ci. Mais seulement deux raisons, ne disons pas idéales, parce que je ne sais pas ce que ça veut dire, mais deux raisons, une relation de raison. C'est un terme technique. Un terme technique, il ne faut pas vouloir le dénaturer. Il faut accepter qu'il y ait des termes techniques, tout simplement. Alors on dit relation de raison. je crois qu'on ne peut pas traduire autrement. Relation idéale, c'est tout à fait autre chose. Là, vous pensez à amis idéal. Ça, c'est pas la même chose. Relation idéale, relation de raison en Dieu, parce qu'elle ne suppose aucun changement en lui. Il faut donc reconnaître que l'union dont nous parlons n'est pas réelle en Dieu, mais seulement de raison, tandis qu'elle est réelle dans la nature humaine, parce que celle-ci est une créature, d'où l'on doit dire qu'elle est quelque chose de créé. Mais ce double regard ne peut pas faire autrement. Du côté de Dieu, rien n'est changé du côté de Dieu. Et du côté de la nature humaine assumée, tout est changé. Donc, l'union entre les deux natures, vous voyez, si vous la regardez du côté de Dieu, évidemment, elle est éternelle. Alors, je crois que ce serait intéressant pour le regard de Daniel. Parce que c'est faut essayer de comprendre comment cette théologie doit nous aider à pénétrer ce qui est révélé. Alors, on comprend très bien dans la révélation, il y a les deux aspects tout le temps. Vous voyez, comme il y a les deux aspects du mystère du Christ dans sa gloire et le mystère du serviteur douloureux, les prophéties douloureuses du Christ, les prophéties qui regardent le point de vue de la souffrance et les prophéties de la gloire, il y a la même chose dans le regard de l'incarnation. L'incarnation, d'une certaine manière, domine tout ce que nous avions vu à propos des convenances de l'incarnation. Il y a quelque chose qui est au-delà de tout, puisque c'est le sommet de l'économie divine. Toute l'économie divine dépend de cela. Et puis, en même temps, voir que l'incarnation est inscrite dans l'économie divine à tel moment. Alors, je crois qu'il faut garder les deux regards, tout le temps. La vision d'Antioche, la vision d'Alexandrie. Selon un ordre. La réponse à la première objection, nous disons que Dieu est uni à la créature, parce que dans la réalité, la créature se trouve unie à lui. Mais une telle union n'apporte aucun changement en Dieu. C'était bien, Dieu n'est pas changé. Donc si Dieu n'est pas changé, elle est éternelle. Deuxième objection, en toute chose, c'est la fin qui est à considérer. Or, la fin de l'union, c'est l'hypostase, ou la personne divine dans laquelle elle se termine. Il semble donc que l'on doive juger de l'union d'après la condition de l'hypostase divine, laquelle est incréée. Par suite, l'union elle-même ne saurait être quelque chose de créé. Réponse. La nature de la relation, ratio relationis, comme le mouvement, donc la nature, la raison de relation, comme celle du mouvement, est déterminée par son terme ou sa fin. Mais son être dépend du sujet en lequel elle se trouve. Et puisque l'union n'a d'être réel que dans la nature créée, il s'ensuit qu'elle possède un être créé. Là encore, puisque une relation, il y a le in et le ad dans toute relation. Vous pouvez considérer le ad, c'est le terme formel de la relation, et le in, c'est la relation telle qu'elle existe, sa manière d'exister. Or, cette relation, elle existe dans la nature humaine assumée, la nature humaine du Christ, et elle est tournée vers le Verbe. Alors, suivant que vous regardez le ad ou le in, vous dites, elle est créée, elle est incréée. Oui, ça c'est très beau, parce que ça montre bien justement cette ratio relationis, cette raison de relation implique les deux. Troisième objection, ce que l'on attribue à l'effet doit être à plus forte raison attribué à la cause. Mais on dit de l'homme dans le Christ, à cause de l'union, qu'il est le Créateur. À plus forte raison, par conséquent, devra-t-on reconnaître que l'union elle-même, loin d'être quelque chose de créé, s'identifie au Créateur. L'homme dans le Christ est appelé Dieu en raison de l'union dont le terme est l'hypostase divine. Mais pour autant, l'union elle-même n'est pas Dieu, car le qualificatif de créer se rapporte bien plutôt à l'être même de la relation qu'à sa nature ou son essence. Vous voyez là encore, hein? L'être, vous voyez la distinction que fait saint Thomas, c'est intéressant à propos de la relation, hein? Quia quod aliquid dicatur creatum, quelque chose est dit créé, hoc magis respicit exceptius quam rationem. L'opposition est très très jolie. Quand vous dénommez quelque chose de créé, vous regardez l'essai participer. Vous regardez son essai. L'essai ipsius. Alors vous voyez tout de suite la question, mais alors c'est la question de l'unique essai du Christ. Ici, on a l'air de dire que l'essai est un essai créé. Puisque vous dites que cette relation, elle est dans le temps, elle est créée. Donc, ça donnerait un peu de l'eau au moulin par rapport à ceux qui disent que dans le Christ, il faut regarder les deux essais. C'est très très joli, ça, c'est très intéressant pour ceux qui s'intéressent. Pour la question de la relation, hein, c'est toujours très subtil la relation. C'est toujours très subtil de saisir ce que c'est que la relation. Vous savez bien, tous ceux qui ont fait l'année dernière sont entrés dans le mystère de la très sainte Trinité. Et j'espère qu'ils sont demeurés, n'est-ce pas ? Alors, saint Thomas distingue le âme et le in. Une distinction subtile, merveilleuse. La relation avec la ratio relationniste. La raison de relation est-elle là ou le in ? La ratio regarde toujours ce qu'il y a de plus formel. Alors, le ad, ici, regarde le terme. La fin. Le in, regarde l'essai. Toujours, c'est l'inhérence. La raison de relation regarde les deux, mais je peux comprendre comment je peux attribuer à Dieu, quand j'attribue à Dieu la relation, j'attribue que l'âme, pas le in, parce que le in en Dieu, c'est sa substance même. Donc c'est une relation subsistante, c'est un ad subsistant. Ici, j'essaie de comprendre, hein, voyez bien la question, cette relation qui existe, toute relation est une conséquence d'une action ou d'une passion. Il y a eu une transformation de la nature humaine assumée par le point de vue du Verbe divin. Je peux donc regarder cette relation nouvelle qui existe à partir du mystère d'incarnation. C'est une relation nouvelle de la nature humaine par rapport à la nature divine. Donc, du côté de Dieu, rien n'est changé. Du côté de la nature humaine, tout est changé. Et donc, du côté de la nature humaine, cette relation est quelque chose de créé, c'est bien évident. Elle est quelque chose de créé, je ne peux pas dire autre chose. Et si elle est quelque chose de créé, c'est bien ce hymne, c'est sûr. Parce que le had de cette relation, il se termine au verbe. L'union se fait dans le verbe de Dieu. Donc cette relation, elle se termine au verbe. Mais elle est dans la nature humaine. Et il est quelque chose de créé. Et saint Thomas parle ici de l'essai créé. Essai ipsius. Aliquid dicatur creatum, hoc magis respicit esse ipsius quam rationem. La ratio, la raison de la relation, c'est bien ce qui la termine, et son existence et son idée dans la nature humaine. Alors, vous voyez tout le problème. quand il s'agit de la nature humaine, quand il s'agit de la nature humaine dans le Christ, elle subsiste dans le Verbe. Bon, elle, son existence, c'est celui de Dieu. Et cependant, il y a un essai ici créé. Alors, comment expliquer qu'il y a un essai créé dans une nature qui subsiste en Dieu? Je dis, je vous poserai les questions successivement pour que, quand on arrivera au problème, on pourra être noté.
Oui. Il n'est pas un essai créé, la relation est créée, oui. Et on la comprend en fonction de l'essai du Christ.
C'est pas l'essai du Christ, l'essai du Christ n'est pas créé.
Oui, mais il ne dit pas justement essai créé.
Si la relation a un essai créé,
c'est évident. C'est tout à fait à la fin de la Secondo Tertium. C'est ce point de vue-là que je
voulais.
Oui, Secondo. Mais déjà les deux, vous comprenez? Parce qu'il dit aliquidicator creatum. Et puis alors vous dites ici, ratio relationis sicut et votus dependet ex fine, sed esse eius dependet ex subjecto. Et quia unio talis non abet esse reale nisi in natura creator, creatura, ou dictum est, consequens est quod abet esse creatum. Je vous pose un problème, hein? C'est très difficile. Il faut être loyal avec le texte de saint Thomas pour essayer de comprendre, et je crois qu'il faut bien le poser là, parce que c'est l'union implique, cette union, elle est quelque chose de créé. Elle est bien quelque chose de créé. Unio est aliquid creatur. Elle est quelque chose de créé en fonction de son essai créé. Alors cet essai créé, qu'est-ce qu'il est ? Cet essai créé. Si l'essai du Christ est celui du Verbe. Hein? Je suis partisan de dire que l'essai du Christ est l'essai du Verbe. Hein? Mais il faut justement bien voir ces questions-là, annexes, difficiles, qui sont présentes. Et que saint Thomas lui-même souligne. Saint Thomas n'a pas l'air de mettre de beaucoup de difficultés. C'est très très simple. L'union, c'est la relation entre les deux. Bon, cette union implique nécessairement que du côté de la créature, c'est quelque chose de créé. Et du côté de Dieu, c'est une relation de raison et elle est changée du côté de Dieu. Alors, je peux prendre le corps de l'article et dire ça. Si je réfléchis au problème plus général de l'exister et de l'exister, de l'exister, je dirais, de quelque chose de second, l'union. Alors un problème devient beaucoup plus difficile. On verra, j'exprès, je ne solutionne pas tout de suite. Je laisse le point d'interrogation. C'est toujours bon d'avoir quelques problèmes, tandis qu'on chemine. Si vous n'avez pas, vous prenez les conclusions, vous arrêtez aux conclusions, et puis ça y est, et on ne comprend plus rien du tout. Il faut tout le temps remonter à la source, pourtant essayer de saisir ces deux aspects. Quand il s'agit de la relation, et la relation est quelque chose de très particulier, c'est justement ça qu'on regarde. On regarde la relation qui existe entre la nature humaine en tant qu'elle est assumée et la nature divine. Il y a une relation. Il y a une relation qui se termine en Dieu, c'est évident, elle se termine en Dieu. La nature humaine du Christ se termine en Dieu. Mais cette nature humaine, elle est modifiée, elle est transformée du fait même qu'elle est assumée. Et donc, il y a quelque chose de créé en elle. Aliquid creatur. Oui, il faut essayer de comprendre l'essai substantiel et puis là.
L'essai créé n'est pas le mode, donc ce n'est pas l'essai substantiel comme tel. Quand on dit essai créé, on relativise l'essai. On vise un mode d'être et non pas l'être.
pas nécessairement. Est-ce que vous êtes un essai créé, vous?
Non, j'ai un essai créé.
Ah, vous avez un essai créé. Vous avez un essai créé et votre essai est substantiel.
Ah oui, oui.
Il est substantiel. Et l'essai, et la nature humaine du Christ est substantielle.
J'ai un essai qui a un mode créé. Un essai substantiel qui a un mode de...
Ah, ce n'est pas un mode créé. Tout votre être est créé. Hein, pas seulement un mode, parce que si vous mettiez un mode, vous allez dire, bon, il y a quelque chose en moi qui est incréé, alors le mode vient. Non.
Non, j'ai quelque chose de commun avec Dieu, c'est l'essai.
Mais ah, c'est l'essai.
Le mode est radical.
Votre essai est participé. Et votre essai étant participé, tout votre essai
c'est un mode écrit. C'est un mode qui touche tout mon être.
Ah, c'est plus qu'un mode, c'est plus qu'un mode. Je ne crois pas que vous pouvez dire un mode. Parce que vous êtes substantiellement créé.
Oui, on est obligé de distinguer entre eux. Sinon, alors la distinction créée et incréée rentre directement dans l'être.
Non, pas du tout. Pas du tout. Vous verrez que fameux problème de justement de la dépendance de l'être créé à l'égard du créateur, il est quand même totalement dans tout son être.
Une question de mode.
La mode. Mode de quoi?
Ça ne touche pas les principes propres de
l'être. Le mot douce, le mode. Ah, ça ne touche pas les principes propres de l'être. Ça touche son exister.
Concrètement.
Ah, son exister. Qui est le plus actuel en lui. Est-ce que vous dites mode? Mode de quoi? Mode d'un sujet.
Ah, pas juste un accidentel. Ce n'est pas accidentel. C'est un mode substantiel.
C'est un mode substantiel?
Ça touche la créature. De la créature, ça reste un mode, ce n'est pas un principe propre de l'être.
C'est pas un principe propre de l'être. Dès qu'on dit essayer de participer, ça ne veut plus dire un être parti, pas un principe propre, puisque c'est second. Vous voyez? Mais mode, il faut faire un petit peu attention. On verra ça. On retrouvera. Donc, notons le problème qu'il y a là une pierre d'attente de dire, bon, essayer de participer, est-ce quelque chose de créé? Donc, on aurait tendance à dire que l'essai de la nature humaine du Christ est quelque chose de créé. Oui.
Le fait que ce soit une relation de raison.
Ah, relation de raison du côté de Dieu, pas du côté du Christ. Du côté du Christ, relation réelle. C'est pour ça, aliquid creatum. Quelque chose de créé. Oui. Alors, ceux qui ont déjà découvert, tant mieux. L'article 8, l'union est-elle identique à l'Assomption? Et les autres y cherchent. Je vous l'ai dit, il faut avoir quelques leitmotifs comme ça que nous cherchons de temps en temps. Donc, l'union est-elle identique à l'Assomption? Les relations, comme le mouvement, sont spécifiées par leurs termes. Mais le terme de l'Assomption et de l'union est identique. C'est l'hypostase divine. Il ne semble donc pas que l'on puisse établir entre elles de différence. Alors ici, corps de l'article. On dit de la nature divine qu'elle est unie. On ne dit pas qu'elle est assumée. Dicitur unita non autem assumta. C'est la nature humaine qui est assumée. Tandis que la nature divine, elle est unita. Comme nous l'avons dit, l'union implique une relation de la nature divine et de la nature humaine. Résultat de leur synthèse en une personne unique. Donc toujours la petite modification qu'il faut prendre par rapport à ce que dit le Père Eris. Donc l'union importat relationem divine nature et humane secundum quod convenium in una persona. C'est quoi qu'ils conviennent dans une unique personne. Alors, convenir dans une unique personne, est-ce une synthèse? C'est la question. Oui. En gros, mais le mot synthèse aujourd'hui a pris une telle signification que c'est tellement gênant. Vous voyez? Le conveniunt a quelque chose de beaucoup plus simple et, j'allais dire, réaliste, synthèse, toujours un peu intellectuel. Vous voyez ? La synthèse, c'est le fruit que l'intelligence opère. L'intelligence opère une synthèse. Ce serait mixte, vous voyez. C'est différent. Tandis que le convenient exprime quelque chose de différent. Il convient dans une unique personne. Or, convenir dans une unique personne, c'est justement le respect des deux natures, hein, plaignées. Par ailleurs, toute relation qui commence dans le temps provient de quelque changement. Alors ça, c'est le fondement de la relation. Une relation, le mouvement ne se termine pas à la relation, mais la relation présuppose, une relation qui apparaît, présuppose un changement. Par ailleurs, toute relation qui commence dans le temps provient de quelque changement. Le changement comporte action et passion. Par conséquent, la première et principale différence entre l'union et l'assomption consiste en ceci, que l'union, c'est la relation elle-même, tandis que l'assomption, c'est l'action. Au sens où nous disons que quelqu'un assume, ou la passion, au sens où nous parlons de quelque chose qui est assumé. Donc, assomption veut dire action, tandis que relation, union veut dire relation. C'est une question de terminologie, si vous voulez, mais une terminologie qui est quand même importante. De cette première différence dérive une seconde, car l'assomption signifiant un devenir, au lieu que l'union suppose le fait accompli, il en résulte que nous pouvons attribuer au sujet unissant l'élément qui lui est uni, mais nous ne pouvons attribuer au sujet unissant l'élément qu'il assume. La nature humaine, en effet, considérée au terme de son assomption à l'hypostase divine, possède une signification concrète que l'on traduit par le mot « homme ». Et c'est pourquoi nous disons avec vérité que le Fils de l'homme, unissant à lui la nature humaine, est un homme. Au contraire, la nature humaine considérée dans son assomption ne peut être signifiée que par un terme abstrait. Or, nous ne pouvons pas dire que le Fils de Dieu est la nature humaine. Donc vous voyez là encore la première différence, c'est le point de vue de l'action et la relation. Tandis qu'ici, on montre que l'assomption signifiant un devenir, au lieu que l'union, suppose le fait accompli. C'est factum esse, l'union. C'est le résultat, si vous voulez. Tandis que l'assomption implique un devenir, implique une action qui se fait. La troisième différence vient de ce que la relation, surtout la relation d'équivalence, se réfère indifféremment à l'une ou l'autre de ces termes. L'action et la passion, au contraire, se réfèrent de diverses manières à l'agent ou au patient et à leurs termes. Ainsi, l'assomption suppose-t-elle un point de départ et un point d'arrivée ? Qui dit assomption dit appréhension à soi à partir d'autre chose. Mais l'union ne comporte rien de tout cela. D'où l'on peut dire indifféremment que la nature divine est unie à la nature humaine et réciproquement. Mais l'on ne peut pas dire que la nature divine est assumée par la nature humaine. Le contraire seul est vrai, car la nature humaine est unie à la personnalité divine de manière que la personne divine subsiste en elle. Donc vous voyez, c'est tout simplement pour essayer de comprendre là deux points de vue différents, que c'est pour préciser ce que c'est que l'union. Et bien faire que l'union regarde le fait d'exister, alors que l'assomption regarde l'action qui unit. Une fois que vous avez compris que l'assomption, c'est l'action qui unit, vous pouvez tout de suite voir les différents aspects que souligne saint Thomas ici. C'est que toujours, l'union, c'est le résultat. Tandis que de l'autre côté, on est en face d'une action qui réalise cela. La voyons tout de suite. Les objections. Comme il a été dit au cours de l'article, l'union et l'assomption ne se réfèrent pas de la même manière à leur terme. Non, c'est simple. Deuxième objection, de plus. Dans le mystère de l'incarnation, il ne paraît pas y avoir de différence entre ce qui est uni et ce qui assume, entre ce qui est uni et ce qui est assumé. Mais l'union et l'assomption résultent de l'action et de la passion considérées soit dans ce qui est uni, soit dans ce qui unit, soit dans ce qui est uni, soit dans ce qui assume, soit dans ce qui est assumé. L'union semble donc être identique à l'assomption. Réponse. Le principe d'union et le principe d'assomption ne sont pas tout à fait identiques. Toutes les personnes divines, en effet, concourent à l'union, mais non à l'assomption. La personne du Père unit la nature humaine au Fils, et non pas à soi-même. Elle est principe d'union, elle n'est pas principe d'assomption. De même, il n'y a pas identité entre ce qui est uni et ce qui est assumé, puisque la nature humaine peut être dite unie, puisque la nature divine peut être dite unie et non assumée. Vous voyez là, encore, précision qu'il faut. Vous le verrez de mieux en mieux, hein, parce que ça, c'est déjà une question qui nous oriente vers un problème que nous verrons après. Mais ici, saint Thomas le prend pour mieux préciser ce que c'est que l'union. Et donc, tout de suite, écarter ce que nous aurions imaginativement entre le point de vue de l'union et de l'assomption. L'assomption va se terminer à la personne. Et c'est pour ça que seul le verbe assume. Quand il dit que les trois personnes unissent. Parce que les trois personnes coopèrent à cette union qui existe entre la nature humaine et la nature divine dans la personne du verbe. Tandis que seul le verbe assume. Troisième objection. Enfin, Damascène écrit « L'union signifie seulement la conjonction, sans déterminer entre quel terme elle se fait. L'incarnation, au contraire, et l'humanisation précisent quels sont les termes conjoints. Mais l'assomption est tout aussi indéterminée par rapport aux termes conjoints que l'union elle-même, l'une et l'autre, sont donc identiques. Alors, l'assomption connote dans sa signification celui qui assume, puisque assumer signifie prendre pour soi. Donc, assomption, determinat, cui facta est copulatio, ex parte assumentis. In quantur assumptio dicitur quasi ad se sumptio. L'assumption ad se. Prendre pour soi, assumer. N'est-ce pas? L'incarnation et l'humanisation désignent ce qui est assumé, à savoir la chair ou la nature humaine. L'assumption diffère donc conceptuellement, et de l'union, et de l'incarnation, et de l'humanisation. Vous voyez comment le point de vue suffit toujours de revenir à l'assomption qui implique cette espèce d'opération de ramener l'autre vers soi, de prendre l'autre en soi. L'assomption se termine à la personne du verbe. Alors que l'union implique l'action des trois. Je crois que c'est ça encore qui nous fait le mieux comprendre la différence entre le point de vue de l'union et l'assomption. L'assomption est personnelle. L'union n'est pas, elle est personnelle, puisque cette union se fait dans les personnes, mais le principe de cette union, c'est l'une des trois personnes divines. J'avance, hein, parce qu'il faut avancer. Article 9. L'union des deux natures est-elle la plus étroite qui puisse se concevoir ? Ça, c'est très beau. Cet article est très beau. Il y a certains articles qui ont une qualité spéciale. Hein. Il faut s'y arrêter plus. Des éléments unis entre eux, c'est l'objection, possèdent moins d'unité que ce qui est un à proprement parler. Ils ne font en effet que participer à l'unité, tandis que ce qui est un la possède par essence même. Or, dans les réalités créées, il n'est pas impossible de trouver quelque chose qui soit purement et simplement un, comme il appert surtout de l'unité qui est principe du nombre. L'union dont nous parlons ne possède donc pas le maximum d'unité possible. Donc, différence entre union et unité. L'union implique des éléments divers qui sont unis. Unité implique quelque chose qui se rattache au principe. Un principe n'est pas une union. Un principe possède l'unité. Alors, vous voyez, sous-jacent tout cela, il y a tout le néoplatonisme. Ça, c'est des articles qui sont très proches du néoplatonisme. Parce que c'est toutes les grosses questions du néoplatonisme, l'union et l'unité. Qu'est-ce qui est participable, qu'est-ce qui n'est pas participable? Dans le principe, il y a toujours quelque chose d'imparticipable. Il y a toujours quelque chose de participable. Toutes les grandes questions qu'on trouve dans le Parménide, qu'on trouve dans toutes les grandes discussions des néoplatoniciens. Réponse de saint Thomas. Cependant, au dire de saint Augustin, l'homme est plus intimement uni au Fils que le Fils au Père. Ah, ça, là, vous n'y comprenez plus rien. C'est très très beau, du reste. Homo potius est in filio, quam filius in patre. Mais le Fils est uni au Père par l'unité de leur essence. L'homme est uni au Fils dans l'union de l'incarnation. C'est donc que l'union de l'incarnation est plus profonde que l'unité de l'essence divine. Maior est unio incarnationis quam unitas divine sanctia. Ça, vous plongez tout de suite dans des profondeurs dignes de maître Eckhart. Hein? C'est vrai, c'est quelque chose de... C'est donc que l'union de l'incarnation, qui est plus profonde que l'unité de l'essence divine, laquelle pourtant réalise une souveraine unité. Et par le fait même, il n'y a pas d'union plus grande que celle de l'incarnation. Et sic per consequens, unio incarnationis importat maximam unitatem. Maximam unitatem. Ça, c'est... Alors, voyons la manière dont saint Thomas va expliquer. Là, il se contentait de se mettre dans la plongée de saint Augustin. Saint Augustin, de temps en temps, il a des audaces extraordinaires. Hein. Ça, retenez cette phrase de saint Augustin qui est très très forte. Homo potius est in filio, quam filius in patre. Ben, je vous dirai ça, et comme ça, vous direz, mais non, c'est impossible, quoi, c'est absolument impossible. C'est absolument impossible, il y a quelque chose là qui ne va pas. Alors, saint Thomas, l'union suppose la conjonction des divers éléments en une réalité unique. Donc, l'union importat conjonctionem aliquarum in aliquo uno. L'union de l'incarnation peut donc être envisagée d'une double manière. Soit du point de vue des éléments unis, soit du point de vue de la réalité en laquelle ils sont unis. Sous ce dernier rapport, l'union l'emporte sur toutes les autres unions, car l'unité de la personne divine en laquelle sont unies les deux natures est la plus grande qui soit. Est maximum. Mais sous le premier rapport, il ne saurait être ainsi. C'est bien normand, cet homme. Hein. D'un côté, de l'autre. Mais c'est très très beau. Hein. C'est extrêmement beau comme contemplation. Ça. C'est l'abîme infini du Verbe en lequel la nature humaine est unie. Elle est unie dans cet abîme infini du Verbe. Et le Verbe est d'une simplicité absolue. Donc être uni in persona dans la personne du Verbe, c'est maxima comme unité. On ne peut pas penser une unité plus grande. Et c'est la fine pointe, j'allais dire, hein, la fine pointe du mystère de l'union, du mystère de l'incarnation. De l'union hypostatique. C'est là où nous découvrons cette intuition de saint Augustin que saint Thomas explique. Alors si je prends évidemment les éléments unis, ça c'est autre chose. Alors évidemment il faut expliquer que ce maxima.
Dans notre manière de penser l'union. Nous, l'union paraît pour nous plus grande dans le Fils, dans le Verbe incarné, qui est une personne, que en Dieu, où il y a deux personnes. Alors, selon notre manière de penser, c'est compréhensible.
C'est compréhensible, c'est là. C'est notre manière de penser. Est-ce que notre manière de penser est c'est selon un raisonnement de raison raisonnante, ou est-ce que notre manière de penser touche le mystère? Pas du tout. Moi, j'ai pas du tout cette impression-là. J'ai au contraire l'impression que c'est pénétrer au plus intime du mystère. On pénètre au plus intime du mystère. Et quand on pénètre au plus intime du mystère, on pénètre dans cette union qui se fait in persona, dans la personne du Verbe, qui est la plus grande des unités. C'est très très fort, hein. C'est extraordinaire comme. Vous voyez, alors il s'agit de bien. Il ne faut pas faire des oppositions, n'est-ce pas? Leur dire que l'union du Fils et du Père, elle est moins grande. Vous voyez? Maxima, elle est d'un autre ordre. Vous voyez? Elle est d'un autre ordre. Mais l'unité, quand il s'agit de la personne, comme la personne, c'est ce qu'il y a d'ultime. Au point de vue de l'unité. Être uni dans la personne, c'est maximum. Alors, Heidegger dirait, ça demande à penser. Ça, c'est là où on touche le mystère, hein, dans toute sa force au point de vue contemplation. C'est le comprendre comment la simplicité absolue du Verbe n'est modifiée en rien par le mystère de l'incarnation, et la nature humaine du Christ est unie au Verbe dans cette simplicité absolue de la personne. Est-ce qu'on pourrait le prendre du côté de la simplicité, oui? Alors peut-être que ça nous aiderait à comprendre ce point de vue, c'est maxima, c'est très audacieux. C'est très audacieux de la part de saint Thomas, c'est très audacieux de la part de saint Augustin de dire ça. Mais c'est très beau, c'est très grand, c'est très vrai. C'est sûr, c'est très vrai, c'est ça le point de vue ultime de l'union dans le mystère de l'union hypostatique. Dieu assume la nature humaine d'une manière telle qu'elle est dans une unité avec lui, unité la plus grande qui puisse exister. Alors, voyons les réponses aux objections. Hein. L'unité de la personne divine est plus grande que l'unité numérique principe du nombre. Ça va encore. Unitas personae divinae est maior quam unitas numeralis qui filicet et principium numeri. L'unité de la personne divine, en effet, est une unité subsistante, non reçue dans un autre être par participation. Complète.